les Goules établirent leur campement au milieu des ruines de Sarcomande, puis envoyèrent une messagère auprès des maigres bêtes de la nuit pour qu'elles viennent leur servir de monture. Pikman et les autres chefs exprimèrent avec effusion toute leur gratitude à Carter pour son aide. Le voyageur commençait à sentir que ses plans mûrissaient, on ne pouvait mieux, et qu'il était maintenant en mesure de demander à ses effrayantes alliées de l'aider non seulement à quitter cette région des contrées du rêve, mais aussi à poursuivre sa quête ultime des dieux de Kadat l'Inconnu et de la merveilleuse cité du soleil couchant que les Très-Hauts maintenaient si étrangement à l'écart de son sommeil. Il parla donc de ses projets au chef des nécrophages, leur exposant ce qu'il savait du désert de glace où se dresse Kadat, ainsi que des monstrueux chantaques et des montagnes bicéphales qui les gardent. Il parla de la crainte que les maigres bêtes de la nuit inspirent aux chantaques, et des cris que poussent ces grands oiseaux hypocéphales en s'enfuyant loin des sombres boyaux percés sur les hautes pentes grises des pics décharnés séparant Inquanok de l'abominable Leng. Il leur dit aussi ce que les fresques du monastère dépourvu de fenêtres, où vit l'archiprêtre qu'il ne faut pas décrire, lui avaient appris sur les maigres bêtes de la nuit. Il leur expliqua que même les Très-Hauts les craignaient, et que leur suzerain n'était nullement Nyarlathotep, le chaos rampant, mais le vénérable et immémorial Nodens, seigneur du grand abîme. Carter débita tout cela aux Goules assemblés, et termina en présentant la requête qu'il avait en tête et qu'il ne trouvait pas si extravagante au regard des services qu'il venait de rendre à ces créatures bondissantes, aux faciès canins et aux corps caoutchouteux. Il désirait vivement, expliqua-t-il, qu'on mît à son service suffisamment de maigres bêtes de la nuit pour le conduire, en toute sécurité, par-delà les montagnes sculptées et le royaume des Chantaques, jusque dans le désert de glace, plus loin qu'aucun mortel n'était jamais allé. Il désirait voler jusqu'au château d'Onyx, au sommet de Kadat l'Inconnu, dans les terres algides, pour plaider sa cause auprès des Très-Hauts afin qu'ils lui permettent d'accéder à la merveilleuse cité du soleil couchant. Il était convaincu que les maigres bêtes de la nuit pouvaient l'emmener là-bas sans encombre, en survolant les périls de la plaine et les hideuses doubles têtes des sentinelles sculptées dans ces montagnes à tout jamais tapies dans le crépuscule gris. En effet, les voltigeurs cornus et sans visage n'avaient rien à redouter de la terre, puisque les Très-Hauts eux-mêmes en avaient peur. Et si quoi que ce fût d'inattendu devait être tenté par les autres dieux, toujours enclins à s'occuper des affaires des dieux de la terre, moins puissants qu'eux, les maigres bêtes de la nuit n'avaient rien à craindre. Car les enfers extérieurs sont indifférents à ces créatures ailées, silencieuses et glissantes, dont le maître n'est pas Nyarlathotep, mais le puissant et vénérable Nodens. Un groupe de 10 ou 15 maigres bêtes de la nuit, poursuivit Carter, devait suffire à tenir à distance n'importe quel troupeau de Chantaques, même si quelques Goules étaient les bienvenus, dans la mesure où ses alliés des maigres bêtes de la nuit connaissaient mieux leurs mœurs que les hommes. Ce commando pourrait le déposer en un lieu approprié, n'importe où à l'intérieur des murailles, à condition qu'il y en eût, de cette fabuleuse citadelle d'Onyx, puis se cacher dans les ombres en attendant son retour ou son signal, tandis qu'il s'aventurerait à l'intérieur du château pour y prier les dieux de la terre. Si des Goules souhaitaient l'escorter à l'intérieur de la salle du trône des Très-Hauts, il leur en serait reconnaissant, car leur présence ajouterait du poids et de l'importance à sa requête. Toutefois, il n'insisterait pas sur ce dernier point. Tout ce qu'il désirait, c'était être transporté jusqu'au château au sommet de Kadat l'Inconnu. Le voyage de retour se ferait soit vers la merveilleuse cité du soleil couchant elle-même, dans l'hypothèse où les dieux lui seraient favorables, soit vers la porte du sommeil profond dans le bois enchanté, d'où il repartirait vers la terre au cas où ses prières resteraient vaines. Les Goules écoutaient toutes très attentivement le discours de Carter, et le temps passant, le ciel se noircit sous l'effet des nuées de maigres bêtes de la nuit que les messagères étaient allées quérir. Les montures ailées formèrent un demi-cercle autour de l'armée des nécrophages, attendant respectueusement que les chefs aux faciès canins finissent d'examiner la requête du voyageur terrien. La Goule, qui était Pikman, babilla gravement avec ses compagnes, et finalement Carter se vit offrir beaucoup plus qu'espéré. Pour le remercier de les avoir aidés à vaincre les bêtes lunaires, les Goules l'assisteraient dans son audacieux voyage vers des royaumes d'où jamais nul n'était revenu. Elles lui prêteraient non seulement quelques maigres bêtes de la nuit de leurs alliés, mais toute l'armée qui campait là, avec ses soldats Goules aguerris et les chiroptères qui venaient d'arriver, à l'exception d'une petite garnison qui resterait pour garder la galère capturée et le butin rapporté du rocher déchiqueté. Il s'envolerait quand il le désirerait, et une fois à Kadat, une escouade de Goules l'accompagnerait solennellement tandis qu'il présenterait sa requête aux dieux de la terre dans leur château d'onyx. Éprouvant une gratitude et une satisfaction indicibles, Carter établit avec les chefs des Goules les plans de ce courageux voyage. Ils décidèrent que l'armée survolerait de très haut le hideux plateau de Leng, son monastère innommable et ses villages de pierres démoniaques. Ils ne s'arrêteraient que sur les arrogants pics gris pour conférer avec les maigres bêtes de la nuit, si redoutées des Chantaques, dont les tanières criblaient les sommets. En fonction des conseils que ces habitants leur donneraient, ils choisiraient la route à suivre pour se rendre à Kadat l'Inconnu, soit par le désert aux montagnes sculptées qui s'étendaient au nord d'Inquanok, soit par les régions les plus septentrionales du répugnant plateau de Leng lui-même. Ni les Goules, ni les maigres bêtes de la nuit, ces créatures canines ou sans esprit, ne craignaient ce que ces déserts inviolés recelaient. De même, elles ne se sentaient aucunement retenues ni par la peur, ni par une certaine crainte révérencieuse à la pensée de contempler Kadat la solitaire, avec son château d'onyx enveloppé de mystères. Vers midi, nécrophages et maigres bêtes de la nuit se préparèrent à s'envoler, chaque Goule sélectionnant une paire de montures cornues pour la porter. Carter fut placé en tête de la colonne, à côté de Pikman, tandis que devant eux une double rangée de maigres bêtes de la nuit, qu'aucun nécrophage ne montait, servait d'avant-garde. Pikman lança un jappement suraigu, et l'affreuse armée s'éleva en une nuée cauchemardesque au-dessus des colonnes brisées et des sphinx éboulés de la sarcomande primordiale, de plus en plus haut, laissant derrière elle l'immense falaise de basalte qui surplombait la ville, jusqu'à ce qu'apparussent les contours du stérile et froid plateau de Leng. L'ost noir continua son ascension, et le plateau lui-même se réduisit à un minuscule point. Alors qu'il faisait route vers le nord, par-dessus l'horrible plateau balayé par les vents, Carter frissonna en apercevant de nouveau le cercle de monolithes mal dégrossi et la demeure trapue et dépourvue de fenêtres qui, il le savait, abritait cet effrayant blasphème masqué de soie, aux griffes duquel il avait échappé de justesse. Cette fois, il n'y eut pas de descente. L'armée passa tel un vol de chauve-souris au-dessus du stérile paysage, survolant à très haute altitude les faibles feux des abominables villages de pierre, sans s'arrêter pour regarder les contorsions morbides des quasi-humains, cornus et à sabots, qui y dansaient au son des pipeaux, à tout jamais. À un moment, ils aperçurent un Chantak qui volait au ras de la plaine, mais il poussa un cri horrible en les voyant, et s'envola vers le nord, en proie à une panique grotesque. Au crépuscule, ils atteignirent les crêtes grises et déchiquetées qui forment la barrière d'Inquanok, et descendirent en planant vers ces étranges cavernes situées près des sommets qui, se rappelait Carter, effrayaient tant les Chantaks. Comme les chefs des nécrophages les appelaient en pépillant de manière insistante, de chaque boyau jaillit un torrent de sombres chiroptères cornus, avec lesquels les Goules et les maigres bêtes de la nuit de l'armée s'entretinrent longuement au moyen de gestes fort laids. Il apparut bientôt que le meilleur trajet était celui qui survolait les terres algides, au nord d'Inquanok, car les marches septentrionales du plateau de Leng regorgent de pièges invisibles dont se méfient même les maigres bêtes de la nuit. Des influences exécrables centrées autour de certains bâtiments blancs, hémisphériques, bâtis sur de curieux monticules que la tradition populaire associe de manière déplaisante aux autres dieux et à Nyarlathotep, le chaos rampant. Les chiroptères des sommets ne savaient presque rien de Kadat, sinon qu'il devait s'y trouver, quelque part au nord, un fabuleux prodige gardé par les Chantaks et les montagnes sculptées. Ils évoquèrent les rumeurs faisant état des anomalies de proportions constatées dans ces vastitudes inexplorées et se remémorèrent les vagues murmures évoquant un royaume éternellement hanté par la nuit. mais ils ne savaient rien de précis. Alors Carter et toute sa troupe les remercièrent aimablement. Ensuite, après s'être élevés au-dessus des plus hauts pics de granit jusque dans la nuit d'Inquanoc, ils redescendirent sous les nuages phosphorescents et aperçurent au loin les terribles gargouilles accroupies qui avaient été des montagnes, jusqu'au jour où une main titanesque avait sculpté l'effroi dans leur roc vierge. Elles étaient accroupies là, en un demi-cercle infernal, les jambes dans le sable du désert et leurs mitres crevant les nuages luminescents. Semblables à des loups, sinistres et bicéphales, les visages chargés de courroux et la main droite levée, elles surveillaient d'un œil sombre et malveillant l'orée du monde des hommes et protégeaient de toute leur horreur les marches d'un monde septentrional et glacé qui n'était pas celui des hommes. De leurs hideux girons s'élevèrent d'affreux chantacs pachydermiques, mais en voyant l'avant-garde des maigres bêtes de la nuit surgir des brumes, ils s'enfuirent en poussant des gloussements démentiels. L'armée mit le cap vers le nord, survola les montagnes gargouilles, puis des lieux d'un morne désert où tout était parfaitement plan. Les nuées s'assombrirent progressivement, jusqu'au moment où Carter fut environné de ténèbres. Mais les montures ailées n'hésitèrent pas un seul instant, car elles avaient été élevées dans les cryptes les plus noires de la terre et voyaient, non par des yeux qu'elles n'avaient pas, mais par toute la surface moite de leur forme glissante. Elles volaient sans faillir, traversant des vents chargés de senteurs douteuses et de bruits d'origine suspecte. Toujours dans d'épaisses ténèbres, elles couvraient des distances si prodigieuses que Carter se demanda s'il se trouvait encore dans les régions terrestres des contrées du rêve. Soudain, les nuées se dissipèrent et la lumière spectrale des étoiles se mit à luire au-dessus d'eux, tandis qu'au-dessous, tout était noir. Mais ces falotes balises célestes semblaient animées d'un sens qu'elles n'avaient jamais possédé ailleurs, comme si elles indiquaient une direction. Non que les dessins des constellations fussent différents, mais leurs formes familières revêtaient désormais une signification qu'elles avaient jusque-là échoué à faire apparaître de manière aussi claire. Tout convergeait vers le nord. Chaque courbe, chaque astérisme du ciel luminescent s'inscrivait au sein d'un vaste plan dont la fonction était d'attirer d'abord l'œil, puis toute la personne de l'observateur, vers quelque terrible point de convergence secret, par-delà le désert gelé qui n'en finissait pas de s'étendre à l'horizon. Carter regarda vers l'orient, où les crêtes de la grande chaîne de pics s'élevaient autrefois sur toute la frontière d'Inquanoc, et vit se dessiner contre les étoiles une silhouette sauvagement découpée qui continuait de témoigner de la présence des montagnes. Elles étaient encore plus dentelées qu'auparavant, avec des fissures béantes et des cimes fantastiquement erratiques. Carter examina attentivement les angles et les pentes suggestives de cette grotesque silhouette qui semblait l'inciter subtilement, comme les étoiles, à se rendre vers le nord. Il volait à une allure si folle que l'observateur devait faire des efforts importants pour percevoir des détails. Soudain, Carter vit juste au-dessus de la ligne des plus hauts pics un objet noir se déplacer sur le ciel étoilé selon une trajectoire absolument parallèle à celle de sa horde bizarre. Les goules l'avaient également aperçu, car il les entendit babiller tout autour de lui. Pendant un instant, Carter crut qu'il s'agissait d'un gigantesque chantac, d'une taille incroyablement supérieure à la moyenne des spécimens. Toutefois, il s'aperçut rapidement que sa théorie était erronée, car la forme qui circulait au-dessus des montagnes n'avait absolument rien à voir avec celle d'un oiseau hypocéphale. La silhouette qui se découpait de façon forcément vague contre les étoiles ressemblait plutôt à une énorme tête coiffée d'une mitre ou à une paire de têtes infiniment grossies. Et son vol sautillant et rapide à travers le ciel semblait surtout caractéristique d'une créature dépourvue d'ailes. Carter n'aurait su dire de quel côté des montagnes elle se déplaçait, mais il s'aperçut rapidement que sa masse se prolongeait au-dessous de ce qu'il en avait d'abord distingué, car elle cachait totalement les étoiles là où la crête était profondément fendue. Une large trouée apparut alors dans la chaîne de montagnes. C'était là, dans un défilé de basse altitude faiblement éclairé par les étoiles, que s'unissaient les terribles marches du plateau ultramontain de Leng et le désert de glace. Carter se prépara à y voir se découper dans le ciel la partie inférieure de l'immense créature qui volait en ondulant au-dessus des cimes. Lorsque, d'un nouveau bond, la silhouette flottante se rapprocha, tous les regards de l'armée se fixèrent sur la faille où elle ne tarderait pas à apparaître en entier. Graduellement, la monstrueuse forme se rapprocha de la trouée, en ralentissant un peu, comme si elle s'était rendue compte qu'elle avait distancé l'armée des nécrophages. Il y eut encore une minute de suspense intense. Puis vint l'instant de la révélation où la silhouette se dévoila totalement, ce qui amena aux lèvres des ghouls un glapissement craintif, à demi étranglé, traduisant une terreur cosmique, et jeta sur l'âme du voyageur un froid qui ne devait jamais la quitter tout à fait. Car la titanesque forme bondissante qui dominait la crête des montagnes n'était qu'une tête. Une tête double coiffée d'une mitre. Mais au-dessous d'elle sautillait, terrible et vaste au-delà de tout, l'effroyable masse boursouflée qui lui tenait lieu de corps. C'était une monstruosité, haute comme une montagne, qui se déplaçait furtivement et silencieusement. Une forme anthropoïde géante, distordue comme une hyène, qui trottait, noire contre le ciel, en dressant sa répugnante paire de têtes coiffées de cônes à mi-chemin du zénith. Carter ne s'évanouit pas. Il ne hurla même pas de toute la force de ses poumons, car c'était un maître rêveur. Mais il jeta derrière lui un regard horrifié et frémit en distinguant les silhouettes d'autres têtes monstrueuses qui se dessinaient au-dessus des cimes, sautillant furtivement à la suite de la première. Fermant la marche, on voyait pleinement sur un fond d'étoile trois des puissantes formes montagneuses déplacer leur lourde masse à pas de loup, les hautes mitres dodelinant à des milliers de pieds dans les airs. Ainsi, les montagnes sculptées n'étaient pas restées accroupies, la main droite levée dans leur rigide demi-cercle au nord d'Inquanoc. Elles avaient des missions à accomplir, et elles n'étaient pas négligentes. Mais, et c'était horrible, elles ne parlaient jamais et se déplaçaient sans faire le moindre bruit. Entre-temps, la goule qui était Pikman avait aboyé un ordre aux maigres bêtes de la nuit, et toute l'armée s'éleva dans les cieux. La grotesque colonne fonça vers les étoiles, et bientôt on ne vit plus rien se découper contre le ciel. Ni les crêtes de granit gris, immobiles, ni les montagnes à mitres sculptées, qui marchaient. Tout n'était plus que noirceur au-dessous de la légion aux ailes éployées qui fonçait vers le nord, au milieu des rafales de vent et des rires invisibles qui traversaient les terres. Et jamais Chantak ou entité plus innommable encore ne jaillit des vastitudes hantées pour la poursuivre. Plus ils avançaient, plus ils volaient vite, si bien que leur vitesse vertigineuse dépassa sans doute celle d'une balle de fusil pour approcher celle d'une planète sur son orbite. Carter se demanda comment, à une telle vitesse, ils pouvaient continuer à voir la Terre s'étendre au-dessous d'eux. Mais il savait que dans les contrées du rêve, les dimensions ont d'étranges propriétés. Il se trouvait dans un royaume de nuit éternelle, c'était certain. Et il se demanda si les constellations qu'il voyait briller dans le ciel n'avaient pas subtilement accentué leur convergence vers le nord, en se repliant sur elles-mêmes, comme pour projeter l'escadrille dans le vide du pôle boréal, à la façon des plis d'un sac qu'on retourne pour expulser les dernières miettes de substance qu'il contient. Carter constata alors avec horreur que les ailes des maigres bêtes de la nuit avaient cessé de battre. Les montures cornues et sans visage avaient replié leurs appendices membraneux et se reposaient de manière totalement passive dans un vent moqueur qui tourbillonnait en les conduisant de manière chaotique. Une puissance supraterrestre s'était emparée de l'armée, et les ghouls, comme les maigres bêtes de la nuit, étaient impuissantes face à ce courant démentiel qui les attirait irrésistiblement vers ces territoires du nord d'où nul mortel, jamais, n'était revenu. Au bout d'un certain temps, une lumière blafarde et solitaire saillit à l'horizon, puis, à mesure qu'ils en approchaient, s'éleva graduellement au-dessus d'une masse noire qui masquait les étoiles. Carter se dit qu'il devait s'agir d'une sorte de balise au sommet d'une montagne, car seule une montagne peut apparaître à ce point immense vu d'une si prodigieuse altitude. La lumière solitaire et l'obscurité qu'elle étoilait montèrent de plus en plus haut, jusqu'au moment où la masse vaguement conique obscurcit la moitié du ciel, au nord. Malgré l'altitude où évoluait l'escadrille, la balise, pâle et sinistre, continuait à la surplomber, dominant de toute sa monstrueuse hauteur la totalité des pics et des préoccupations terrestres, et goûtant à cet éther sans atomes où tournoient la lune mystérieuse et les folles planètes. La montagne qui se dessinait devant eux était inconnue des hommes. Les plus hauts nuages, que l'on devinait loin en dessous, n'étaient que l'écume de ces contreforts. Quant à la haute atmosphère, elle n'était rien d'autre qu'une ceinture de vertiges tâtonnants passés autour de ses reins. Ce pont jeté entre la terre et le ciel s'élevait, spectral et hautain, noir dans la nuit éternelle et couronné d'un pchente d'étoiles inconnues dont les contours, lourds d'un sens effrayant, s'éclaircissaient à chaque instant. En le voyant, les goules caquetèrent avec émerveillement, et Carter trembla de peur à l'idée que leur armée, lancée à toute vitesse, ne se fracasse sur le nyx inébranlable de cette falaise cyclopéenne. La lumière montait toujours plus haut, se mêlant aux plus lointains orbes du zénith, d'où elle adressait de sinistres clignotements railleurs à la horde emportée dans les airs. Au-dessous d'elle, le nord n'était plus qu'obscurité, une obscurité de pierre et d'épouvante, qui se dressait des profondeurs infinies jusqu'aux hauteurs infinies, avec pour seule balise cette pâle lueur qui clignotait, hors d'atteinte, perchée à l'extrême bord de la vue. Carter observa la lumière plus attentivement et vit enfin se dessiner sur fond d'étoile ses contours d'un noir d'encre. Il y avait des tours sur cette cime titanesque, d'innombrables faisceaux d'horribles tours couronnés de dômes répugnants, comptant plus d'étages que les hommes ne peuvent rêver en bâtir. Des remparts et des terrasses, prodigieux et menaçants, pareils à de lointaines et minuscules enluminures enténébrées peintes sur le pchente qui rougeoyait diaboliquement à la limite supérieure de la vue. Coiffant cette montagne parmi les montagnes, s'élevait un château qui défiait tout ce que les hommes pouvaient imaginer, où brillait la lueur, tel un œil démoniaque. Alors Randolph Carter sut que sa quête était terminée et qu'il voyait se dresser au-dessus de lui le but de ses pèlerinages interdits et de ses audacieuses visions. Le fabuleux, l'incroyable foyer des Très-Hauts au sommet de Kadath l'Inconnu. À peine s'en était-il rendu compte que Carter remarqua un changement de cap dans la course désemparée de la horde aspirée par les vents. À présent, elle montait abruptement, et son vol la conduisait, sans erreur possible, vers le château d'Onyx où flamboyait la morbide lueur. Tandis qu'il filait vers le sommet de la gigantesque montagne noire, ses proches parois défilaient sous eux à une vitesse vertigineuse. Mais l'obscurité était telle qu'il n'y distinguait rien du tout. De plus en plus gigantesques, les tours enténébrées du château où régnait une nuit éternelle les menaçaient de leur interminable hauteur. Et Carter vit que son immensité confinait au blasphème. Il n'était pas impossible, en effet, que ces pierres aient été extraites, par des ouvriers innommables, de cet horrible gouffre qui fendait les collines du nord d'Inquanoc. Car ses dimensions étaient telles qu'un homme sur son seuil eût été aussi visible qu'un grain de poussière sur les marches de la plus haute forteresse terrestre. Le pchente d'étoiles inconnues qui couronnait les innombrables dômes des tourelles rougeoyait d'une lueur blafarde, faisant tomber un crépuscule malsain sur les fuligineuses murailles d'onyx verglacé. Ils s'aperçurent alors que la balise falote n'était qu'une fenêtre éclairée au sommet d'une des plus hautes tours. Et comme l'armée désemparée approchait de la cime de la montagne, Carter crut distinguer des ombres inquiétantes qui voltigeaient de ci de là dans ce rectangle de lumière pâle. Il s'agissait d'une fenêtre étrangement voûtée, d'une architecture parfaitement étrangère à la terre. Le roc inébranlable céda la place aux gigantesques fondations du monstrueux château, et l'armée parut ralentir un peu. Puis des murailles colossales surgirent subitement devant les voyageurs. À peine eurent-ils le temps d'apercevoir le portail cyclopéen qu'ils le franchissaient comme une bourrasque. Dans la cour titanesque, tout était nuit. Mais cette nuit était encore clarté à côté des noires entrailles de l'univers qui engloutirent la colonne après qu'elle eut passé une inimaginable porte voûtée. Un blizzard soufflait des tourbillons d'air humide dans des labyrinthes d'onyx plongés dans les ténèbres. Et Carter ne sut jamais quels couloirs, quels monumentaux escaliers silencieux bordaient leur interminable trajectoire tourbillonnante. Leur terrible plongée dans l'obscurité les conduisait toujours plus haut, sans qu'un son, un frôlement, une lueur vienne jamais déchirer ce dense et mystérieux linceul. Malgré sa taille impressionnante, l'armée des nécrophages et des maigres bêtes de la nuit se perdait dans les espaces prodigieux de ce château supraterrestre. Et quand, enfin, autour de Carter, tout s'auréola brusquement de la sinistre lumière qui, depuis la fenêtre au sommet de la tour, faisait office de phare, il lui fallut un certain temps pour distinguer les lointaines parois et le plafond qui se perdaient dans les hauteurs, et pour comprendre que non, il n'était pas de retour à l'extérieur dans le ciel sans limite. Randolph Carter avait espéré faire son entrée dans la salle du trône des Très-Hauts avec dignité et solennité. Flanqué par une impressionnante escorte de goules en ordre de cérémonie, et adresser ses prières aux dieux en tant que libre et puissant maître rêveur. Il savait qu'il n'était pas impossible pour un mortel de traiter en personne avec les Très-Hauts, et avait compté sur la chance pour que les autres dieux et Nyarlathotep, le chaos rampant, ne viennent pas à leur rescousse au moment crucial, comme il l'avait si souvent fait autrefois, lorsque des hommes s'étaient mis en quête des dieux de la terre jusque dans leur demeure ou sur leur montagne. Avec sa répugnante escorte, Carter était allé jusqu'à caresser l'idée de défier, si nécessaire, les autres dieux eux-mêmes, sachant que les goules n'ont nul maître et que les maigres bêtes de la nuit n'ont pas pour suzerain ni Arlatotep, mais le vénérable Nodens. Mais il comprenait à présent que l'extraordinaire Kadath dans le désert de glace est sainte de sombres prodiges et de sentinelles innommables, et que les autres dieux protègent effectivement les chétifs, les faiblards dieux de la terre, avec un soin jaloux. Bien que n'ayant aucune autorité sur les goules et les maigres bêtes de la nuit, les blasphèmes imbéciles et informes qui croupissent dans l'espace extérieur sont néanmoins capables de les contrôler quand ils le doivent. Aussi, ce ne fut pas en libre et puissant maître rêveur que Randolph Carter fit son entrée, avec son escorte de goules, dans la salle du trône des Très-Hauts. Ballottée par de cauchemardesques tempêtes cosmiques dont elle était le jouet, harcelée par les horreurs invisibles du désert de glace, l'armée flotta, captive et impuissante dans la sinistre lumière, puis s'abattit tout ankylosée sur les pavés d'onyx quand, sur un ordre muet, les vents de l'effroi se dissipèrent. Randolph Carter n'avait devant lui aucune estrade dorée, ni aucun auguste cercle d'êtres couronnés, auréolés, aux yeux étroits, dotés de lobes allongés, d'un nez aquilin et d'un menton pointu, que leur ressemblance avec le visage sculpté d'une granèque signalerait au rêveur comme digne d'entendre ses prières. À l'exception de cette seule salle, au sommet de la tour, le château d'Onyx au-dessus de Kadath était sombre, et les maîtres étaient absents. Carter était bel et bien arrivé à Kadath l'Inconnu, dans le désert de glace, mais il n'y avait pas trouvé les dieux. La lumière sinistre continuait pourtant de brasiller dans cette unique salle aux dimensions à peine inférieures à celles des espaces extérieurs, et dont les murs et le plafond se perdaient dans de fines volutes de brume. Les dieux de la terre n'étaient pas là, c'était vrai. Mais de plus subtiles présences, moins visibles, se trouvaient certainement dans les parages. Là où les petits dieux sont absents, les autres dieux ne sont pas sans représentants. Et l'onyx de ce château de tous les châteaux était sans doute habité. Sous quelle monstrueuse apparence, ou sous quelles monstrueuses apparences, se manifesterait à présent la terreur ? Impossible de l'imaginer. Mais Carter avait le sentiment que sa visite était attendue, et se demanda depuis combien de temps et avec quelle attention Nyarlathotep, le chaos rampant, avait gardé un œil sur son périple. Nyarlathotep, l'horreur aux innombrables formes, Nyarlathotep, l'âme damnée, le messager des autres dieux. Nyarlathotep, que servent les fongueuses bêtes lunaires. Alors Carter repensa à la galère noire qui s'était éclipsée quand la bataille sur le rocher gris avait tourné en défaveur des hérésies crapaudiformes.